Jordan Lelandais a-t-il croisé la route de Thomas, retrouvé mort dans une rivière? Son père, Francis Rochecolbe, aimerait avoir une réponse. Mais faute d'enquête, restent les interrogations et la colère. À ce jour, une trentaine de familles se posent les mêmes questions sur la région Rhône-Alpes et n'espèrent qu'une chose, que les enquêtes avancent enfin, quel que soit le résultat.
Bonsoir, il s'appelait Thomas Rochecolbe et il a peut-être croisé la route du prédateur Nordal Lelandais. Thomas avait 18 ans. À l'hiver 2015, son corps a été retrouvé sans vie près d'une petite rivière en Savoie. Il sortait d'une boîte de nuit. Décès accidentel, affaire classée, jusqu'à ce que ses parents et leur avocat, à force d'entêtement, relancent les investigations sur cette mort troublante. Trop de coïncidences, décidément, avec celle du caporal Arthur Noyer, un meurtre pour lequel Nordal Lelandais va comparaître aux assises au mois de mai. Et puis aussi avec d'autres disparitions inexpliquées, notamment celle de deux jeunes hommes à la sortie d'un festival de musique au fort de Tamiers. Des victimes au profil similaire et des scénarios qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Des faits qui se déroulent toujours dans une même région, Savoie, Isère, région qui serait devenue le terrain de chasse de Nordal Lelandais. 5 ans et demi après, l'enquête sur la mort de Thomas Rochecolbe rebondit. Son corps vient d'être exhumé et va peut-être livrer une autre vérité sur sa fin tragique. C'est ce dossier que nous allons explorer ce soir avec nos invités, avec évidemment cette question qui reste en filigrane. Combien de victimes dans le sillage du prédateur Nordal Lelandais ?
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Heure du crime consacrée ce soir à la mort de Thomas Rochecolbe. Est-il une victime de Nordal Lelandais? A-t-il été assassiné? Non, vont répondre à l'hiver 2015 les gendarmes qui vont examiner son corps. Ce lundi 28 décembre 2015, un corps sans vie est découvert sur une berge d'une petite rivière, le Sierrose à Grésy-sur-Aix, une commune savoyarde de 4500 habitants, juste à côté du lac du Bourget. Il s'agit d'un jeune homme aux cheveux clairs, mince et sportif, vêtu d'un simple jean et d'un t-shirt. Une de ses chaussures est absente. Les gendarmes sont appelés sur les lieux. L'identification de la victime est assez rapide. Il s'agit de Thomas Rochecolbe, 18 ans, un jeune homme qui est domicilié à Lingolsheim, en Alsace, sa région d'origine, mais dont les parents ont une résidence dans ce coin de Savoie, à Arles. À peine 1,5 km de là où a été découvert le corps. Les premières constatations indiquent que la mort remonte à une douzaine d'heures. Il est établi que Thomas a passé la veille, la soirée, dans une discothèque voisine, le Studio 54. Il a sans doute trop bu et s'est peut-être égaré. Le jeune homme a été retrouvé au pied d'une petite falaise de 13 mètres. Il a très probablement glissé et s'est brisé les os et la nuque en chutant de cette hauteur. Le décès est d'entrée de jeu considéré comme un accident. Aucun indice ne permet de croire à un scénario criminel. Le corps est remis à la famille sans qu'il soit effectué de véritable autopsie. Les parents de Thomas Rochecolbe, brisés par le chagrin, ont du mal à admettre la thèse d'une chute accidentelle causée par un excès de boisson. Malgré son jeune âge, Thomas, en très bonne santé, fanatique de basketball, n'était pas du genre à s'égarer ainsi et à courir sans regarder devant lui, au point de tomber du haut d'une falaise. Le suicide est totalement exclu. Dans le doute et au cas où, le père de Thomas, Francis Rochecolbe, refuse l'incinération du corps de son fils. Il préfère qu'il soit inhumé dans le nouveau cimetière de Schiltigheim, près de Strasbourg. Si les parents sont aussi sceptiques, c'est qu'ils ont d'emblée noté des détails qui les intriguent. Thomas a ainsi laissé au vestiaire de la discothèque sa doudoune, alors qu'en cette saison d'hiver, les nuits sont froides dans le coin. Pourquoi a-t-il quitté aussi précipitamment la boîte de nuit? Dans sa course, il a même pris le chemin opposé de la maison familiale. Il a franchi un portail en bois dans une propriété en l'escaladant, puis a grimpé au sommet d'un grillage assez haut, tenu par des piquets métalliques. Il a perdu dans sa course une chaussure. On a retrouvé sa ceinture mystérieusement accrochée en haut de ce grillage. Pourquoi donc? Thomas avait-il trop bu au point de se lancer dans cette folle escapade? Ou bien, tout simplement, fuyait-il quelqu'un? Bonsoir Francis Rochecolbe.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en ligne ce soir avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes le père de Thomas. Alors bien sûr, on va parler dans cette émission de l'apparition de Nordal Hollandais dans cette affaire. En 2015, bien sûr, vous ne le connaissez pas. Et effectivement, on ne connaît pas à cette époque Nordal Hollandais. Son nom n'apparaîtra désormais que 2 ans plus tard avec la mort de Maëlys. Pourquoi, Francis Rochecol, pourquoi doutez-vous immédiatement de l'hypothèse de l'accident? Elle ne vous convainc pas, cette hypothèse?
Oui, en fait, si vous voulez, il y a quelque chose d'entrée de jeu qui m'interpelle, c'est l'endroit où Thomas a été retrouvé. Mm-hmm. Là où il a été retrouvé, il est censé être passé une palissade, un grillage, après avoir traversé la propriété privée d'une maison, et c'est pas du tout sa façon d'être, c'est pas dans sa nature. Il n'a pas été élevé dans l'irrespect du bien d'autrui, donc
non,
de base il n'y a pas de raison qui soit à cet endroit.
Et c'est un garçon qui sort beaucoup, Thomas, à l'époque. Il a 18 ans, il a le droit de s'amuser, etc. Il sort en boîte de nuit comme les garçons, je suppose, de son âge et les filles de son âge.
Absolument. Il sortait en discothèque, il sortait dans les bars avec ses amis, avec sa copine. Si vous voulez, il avait une vie d'adolescent, tout ce qu'il y a de plus normal.
Bien sûr.
Mais par contre, il habitait en ville. Oui, donc déjà l'endroit où il s'est retrouvé, c'était quelque chose d'improbable dans le sens où ça impliquait d'être dans la terre. Enfin, vous voyez, c'est
bien sûr.
Voilà, c'est il est robin, il est un citadin. C'est pas du tout quelqu'un qui va se.
Je comprends bien et je vois bien parce qu'on a le sentiment dans cette scène que vous avez vous-même décrite, cette espèce de fuite éperdue. On a le sentiment d'avoir un garçon qui est totalement désorienté.
Oui, d'autant que là où il se retrouve, la maison où il est rentré, en fait, c'est une maison qui se trouve dans une impasse. J'ai quand même l'impression qu'il a fait un acte désespéré en disant « je vais passer cette palissade et je vais aller de l'autre côté pour essayer de me cacher ou fuir quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas ». Il y a quelque chose d'illogique.
Tout à fait, on le comprend très bien. En fait, il veut s'en sortir. On a l'impression qu'il veut sortir de cette impasse dans tous les sens du terme. Bonsoir Serge Pueyo.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant RTL dans cette région et vous suivez depuis le début cette affaire le Landais et son cortège de mystères. Vous avez sorti énormément d'informations sur cette affaire. On va bien sûr en reparler. À l'époque, Serge Pueyo, la mort de Thomas Rochecolbe ne fait pas de bruit. C'est un accident, on est d'accord ?
Oui, tout à fait. C'est une information qui fait quelques lignes dans la presse locale, mais rien de plus. Hein. L'affaire est présentée par les gendarmes comme un simple accident. La chute d'un jeune homme en état d'ébriété, c'est bien sûr triste, car la victime n'a que 18 ans, mais cela n'attire pas particulièrement l'attention des journalistes.
C'est ça. Quelques mots, Serge. Décrivez-nous cette scène, ou en tout cas ce petit village tranquille sur les rives du lac du Bourget.
Oui, cette commune de Grésy-sur-Aix, hein, tout près d'Aix-les-Bains, il y a une rivière, la rivière du Cirose, qui effectivement traverse cette commune et qui va justement se jeter dans le lac du Bourget qui est tout proche. Eh bien, le corps de Thomas est retrouvé sur une berge de ce cours d'eau, au pied d'une falaise d'à peu près 13 mètres. Le corps n'est pas totalement immergé dans la rivière, il est sur cette berge, dans un endroit un peu encaissé.
Un peu encaissé. Bonsoir maître Bernard Boulou.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en ligne ce soir, vous également, dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille Rochecolbe. Là, on est en 2015, vous allez rentrer sans doute un peu plus tard dans le dossier. J'ai juste une question, là, très rapide, mais une question de béotien, toute simple. Est-ce que, maître, on ne fait jamais d'autopsie pour un accident qui n'est tout de même pas banal ?
Bien sûr que si, on fait des autopsies, mais tout va dépendre des enquêteurs et puis surtout de leur flair et de leur envie de terminer cette enquête ou d'approfondir justement leurs investigations. Donc tout va dépendre des enquêteurs, mais dans ce cas-là précis, c'est ce qui m'avait choqué dès le départ, il aurait fallu faire pratiquer une autopsie.
Malgré les doutes de la famille, l'enquête conduite sur la mort de Thomas Rochekolb conclut à une mort accidentelle. Enquête classée sans suite en 2017. L'apparition du nom de Nordal Le Landais dans les affaires de la région va changer la donne. Dans les mois et les années qui suivent le décès de son fils, Francis Rochekolb fait tout son possible pour rassembler le maximum de détails sur ce drame qui l'obsède. Il n'accepte pas la version officielle, celle d'un accident après une soirée trop arrosée, passée en discothèque, un scénario simpliste qui ne tient compte ni de la personnalité de Thomas, ni de son trajet. Ce soir-là, une course à pied effrénée dans un lotissement, comme si le jeune homme était poursuivi. Mais par qui ? Les parents de Thomas demandent alors à leur avocat, maître Bernard Boulou, de tout faire pour trouver un moyen pour faire rebondir le dossier. Avoir ainsi accès aux constatations des enquêteurs de l'époque et relancer l'affaire en justice. L'avocat envisage donc le dépôt d'une plainte contre X avec constitution de partie civile, ce qui aurait pour effet la saisine immédiate d'un juge d'instruction. 4 ans après la mort de Thomas, tout s'accélère. Ce mardi 15 octobre 2019, Maître Boulou adresse par courrier une plainte contre X pour meurtre au doyen des juges d'instruction de Chambéry. Il ne lui reste plus qu'à attendre une éventuelle demande de consignation, le versement d'une somme d'argent, puis la plainte sera examinée. Un événement imprévu a précipité ce dépôt de plainte. L'interview, la veille, dans les colonnes du journal Le Parisien, de la dénommée Karine, ancienne compagne de Nordal Le Landais, impliqué alors dans les morts de Maïlis et du caporal Noyer. Au détour des questions, Karine décrit un Le Landais menteur, mythomane, ultra-violent, un homme qui s'intéresse à toutes les émissions télé et radio consacrées au crime et se passionne pour les techniques d'enquête. Quand on l'interroge sur l'éventualité que Nordal Le Landais ait commis d'autres meurtres, l'ex-compagne répond spontanément « Pour moi ?» Il y en a d'autres. Il faudrait notamment creuser le dossier du jeune Thomas Rochekolb, 18 ans, mort près de Chambéry. Karine précise qu'à l'époque de la mort de Thomas, elle venait de quitter Le Landais une première fois. Karine dit, il était alors dans le même état de colère, de frustration, que lorsqu'il a tué le caporal Arthur Noyer dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. La veille, le 10 avril, il m'avait fait peur avec sa tronçonneuse. Ces mêmes propos sont diffusés également sur RTL.
Il y en a en tout cas une qui m'a interpellée, c'est celle de Thomas Rochekolb en décembre 2015, où ce jeune a été retrouvé mort. Et en fait, je vais me souvenir qu'on a eu une violente séparation d'un mois à peu près. Ça a été très violent pour lui, il est très en colère contre moi. Il y a des similitudes avec l'état de frustration et de colère qu'il avait juste avant l'assassinat d'Arthur Noyer.
Serge Payot, vous êtes l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, correspondant à RTL dans la région. Cette interview de Karine, c'est vous qui l'avez réalisée et c'est vous, oui, qui avez rencontré cette jeune femme en exclusivité pour RTL. Alors, Le Landais lui a parlé de cette histoire de Thomas Rochekolb ou bien elle a l'intuition qu'il pourrait être mêlé à cette affaire ?
Non, Le Landais n'a jamais évoqué avec Karine cette histoire. C'est elle qui, après l'arrestation de Nordal Le Landais pour les meurtres de Maëlys et du caporal Noyer, et qui va faire le rapprochement avec les autres dossiers qui sont évoqués dans la presse, des dossiers de meurtres, de disparitions, qui pourrait éventuellement être imputé à Le Landais. Alors, elle se souvient qu'à l'époque du décès de Thomas Rochekolb, Le Landais était dans un état de colère, de frustration, vous l'avez entendu.
C'est ce qu'elle dit, effectivement. Ouais, tout à fait.
Effectivement, selon elle, lors du meurtre du caporal Noyer, eh bien, il était, Nordal Le Landais, dans le même état d'esprit, également en colère, car Karine l'avait quitté. Et donc, pour elle, ça fait tilt, ce rapprochement entre l'état d'esprit, la colère dans laquelle se trouvait Le Landais, avec, effectivement, le jour où effectivement Thomas Rochekolb a été retrouvé mort.
Tout à fait. Maître Bernard Boulou, avocat de la famille Rochekolb, alors là, ça fait tilt, comme dit Serge Payot. Il y a l'apparition du nom de Nordal Le Landais dans le périmètre de cette enquête. C'est un témoignage capital, selon vous, à ce moment-là ?
C'était un témoignage, oui, capital, parce que très troublant, dans la mesure où je m'apprêtais d'ailleurs à déposer la plainte avec constitution de partie civile, tout en évoquant d'ailleurs la proximité de Nordal Le Landais, tout en sachant qu'il n'était pas forcément derrière ce dossier, mais il y avait cette proximité géographique et peut-être aussi temporelle. Mais ce témoignage est tombé quelques jours avant que je dépose la plainte, donc je l'ai inclus dans la plainte. Mmh. Et effectivement, bon, je ne connais pas ce témoin, mais ces révélations, si elles étaient avérées, si elles sont avérées, ont de quoi vous donner, enfin vous glacer le sang. Hein. Oui, c'est un témoignage qui a été très important pour faire redémarrer cette enquête, je pense. Et voilà, donc maintenant, nous attendons que ce témoignage soit vérifié, parce que
bien sûr,
il va falloir vérifier chacune des affirmations de cette dame.
Tout à fait. Alors, un mot, maître Boulou. Des juges ont été désignés. Comment ça s'est passé? L'enquête est partie à ce moment-là?
Alors, l'enquête, bien sûr, elle est partie, vous l'avez indiqué tout à l'heure. Donc, une fois que la consignation a été réglée, un juge d'instruction a été désigné et le juge d'instruction a fait son travail en ce sens qu'il a rassemblé les pièces des précédentes enquêtes, puisqu'il y a eu deux enquêtes qui ont été menées par le procureur de la République du moment. Donc il a rassemblé donc les pièces, il a essayé de récolter également les indices, savoir s'ils ont été conservés ou pas. Naturellement, il y a des indices qu'on ne retrouvera pas, malheureusement. Mais cela dit, bon, le juge d'instruction a fait un travail de récollement donc des pièces, d'informations du dossier. Et c'est à cette occasion que j'ai demandé avec la famille l'autopsie.
Oui, hein, c'est ça. On va y revenir sur vos demandes et la suite qui seront données. Francis Rochecolbe, le papa de Thomas, on parlera dans le chapitre suivant de la photo de l'Hollandais que vous avez reçue. Mais là, dans l'immédiat, je voudrais que vous me disiez, avec cette plainte et puis la suite qui est donnée par la justice, je pense que vous reprenez un petit peu votre souffle à ce moment-là, après toutes ces années de silence.
Oh, le souffle, c'est peut-être pas le terme.
L'espoir. Moi,
le souffle, j'ai commencé à l'avoir. Non, c'est juste le souffle, j'ai commencé à l'avoir à partir du moment où j'ai eu Maître Boulou qui s'est chargé de l'affaire et qui a fait effectivement ce qu'il fallait pour faire bouger les lignes. Ensuite, effectivement, l'espoir d'avoir des éléments de réponse. Ça oui, ça c'est une réalité. Mmh. Maintenant, ça reste, on reste dans pour l'instant dans les prémices d'une enquête.
Il y a tout à fait.
Faite pour l'instant.
Et il faut être évidemment prudent dès lors qu'on est dans les débuts de l'enquête. Je voudrais encore un petit mot avec Serge Pueyo. Juste un petit détail. Est-ce que Karine, que vous avez interviewée, l'ancienne compagne de Nordal, savait qu'il fréquentait le studio 54 à Grésy-sur-Aix?
Alors, Karine m'a expliqué que le Landais lui parlait de toutes les discothèques de la région de Chambéry, hein, qu'il fréquentait assidûment. Il les connaissait presque toutes, c'était un fêtard. Et ce qui a intrigué Karine, c'est que justement, Nordal Le Landais ne lui a jamais parlé du studio 54. Donc, elle m'a expliqué qu'elle trouvait cela bizarre, alors que l'on sait maintenant que Le Landais fréquentait cette boîte de nuit, puisqu'une photo l'atteste.
On va le voir.
Pour elle, Le Landais avait peut-être quelque chose de grave à cacher concernant cette boîte de nuit. Ce qui lui fait dire qu'effectivement, il n'a jamais parlé du studio 54 de Grésy-sur-Aix.
La famille de Thomas va demander l'exhumation du corps de la victime. Seul moyen de peut-être connaître la vérité sur sa mort et d'obtenir une preuve d'un acte criminel. Des proches qui n'ont pour l'instant que des doutes, des intuitions, mais manquent de témoignages et d'indices. Le 18 mars 2019, quelques mois avant le dépôt de plainte pour le meurtre de son fils, Francis Rochecolbe avait pris connaissance d'une étonnante photo. On y voit un homme ressemblant à s'y méprendre à Nordal Le Landais. Il est vêtu d'un tricot sombre, dépourvu de manches, une gourmette argentée au poignet droit. Il enlace une jeune femme au cours d'une soirée cliché. Plus qu'intéressant, car il a été pris au mois d'août 2012 au studio 54, la discothèque de Grésy-sur-Aix, exactement le même club où Thomas Rochecolbe a passé la soirée de décembre 2015 avant d'être retrouvé mort. Photo prise donc 3 ans avant le décès du jeune homme et qui ne prouve en aucun cas que l'ancien maître chien se trouvait au club 54 la nuit où Thomas a perdu la vie. Pourtant, pour les enquêteurs, cette image est hautement instructive. Elle démontre que Le Landais avait ses habitudes dans cette discothèque et plus généralement en boîte de nuit. C'est dans un lieu identique qu'il avait sans doute repéré le caporal Arthur Noyer. Ce dernier avait disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 aux abords du Carré Curial, un quartier de bars et de discothèques où se retrouve la jeunesse de Chambéry. Thomas Rochecolbe rejoint ainsi la liste des 40 cold cases, des affaires non élucidées, sur lesquelles semble planer l'ombre de Nordal Lelandais. 35 disparitions et 5 morts suspectes, toutes survenues dans une zone bien connue du tueur présumé de Maëlys et du caporal Noyé, les départements de Savoie, Isère, Drôme, Loire et Ain. La cellule Ariane de la direction de la gendarmerie nationale va beaucoup travailler sur des recoupements possibles entre ces affaires et les emplois du temps de Nordal Lelandais. Les gendarmes vont tout faire pour reconstituer ses déplacements à partir du début des années 2000, à l'aide notamment de ses relevés téléphoniques, de ses relevés bancaires ou encore de ses divers contrats de travail. Pour le moment, ces recherches n'auraient pas permis d'établir un lien formel entre Lelandais et la mort de Thomas Rochecolbe. Francis Rochecolbe, vous êtes ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime, le père de Thomas. Dans quelles circonstances avez-vous reçu la photo de Nordal Lelandais ?
Oh, c'est via Facebook. On trouve de tout, en fait, hein, sur Facebook. Quand vous cherchez un petit peu, assidûment, je dois dire, mais quand vous cherchez, et vous avez décidé de trouver des choses, vous les trouvez. Mmh. Donc oui, effectivement, les réseaux sociaux permettent de trouver énormément de choses.
Là, ça conforte un petit peu ce que vous pressentez depuis le début. C'est que effectivement, cet homme, dès que vous avez pris connaissance de son existence, Nordal Lelandais, il est dans l'environnement du crime de votre fils.
Oui, parce qu'en fait, avant de découvrir cette photo, il n'y avait qu'une... une petite présomption sur le fait qu'il pouvait être sur Aix ou qu'il allait sur Aix-les-Bains. Mais en fait, lorsqu'il y a eu cette photo, ça a appuyé vraiment cette thèse-là.
Ça conforte effectivement la thèse, et ça, les enquêteurs vont le dire, la thèse d'un prédateur qui tourne beaucoup en boîte de nuit et qui sans doute peut-être recherche des proies. Maître Bernard Boulou, avocat de la famille, également de la famille du caporal Arthur Noyé et de la famille Rochecolbe, il y a dans ces deux affaires un mode opératoire, on peut le dire, qui se ressemble beaucoup. C'est une traque presque en boîte de nuit, c'est ça ?
Oui, alors moi je parlerai même de trois affaires. Hein.
Allez-y.
Il ne faut pas oublier l'affaire de la petite Maëlys.
C'est vrai.
Je vais être très bref hein, pour vous donner les similitudes. Il y a la proximité géographique, il y a la nuit, il y a un lieu de fête, il y a un ravin et il y a un décès. Mmh. Voilà, j'ai tout dit.
Ce qui fait beaucoup déjà, on est d'accord.
C'est énorme. Mais cela ne veut pas dire que derrière, il y a Nordal Lelandais, soyons prudents.
Mmh. Oui, parce que, évidemment, trois affaires qui se ressemblent, ça ne constitue pas pour autant une preuve, on est d'accord ?
Non, en revanche, ça devrait interpeller, à mon sens, les enquêteurs. Alors, quand je parle des enquêteurs, je parle des gendarmes, des policiers, mais également des magistrats qui ont la direction de l'enquête. Hein. Ce sont les parquets qui sont les directeurs de l'enquête et ce genre de similitudes devrait les interpeller et effectivement faire en sorte d'investiguer de manière beaucoup plus organisée et de manière beaucoup plus approfondie.
Selon vous, Maître Boulou, les affaires n'ont pas été suffisamment rapprochées assez vite ?
Non, elles ont pas. Il n'y a pas eu de rapprochement qui a pu être fait assez vite. Alors ça, c'est peut-être pas la faute des enquêteurs eux-mêmes, parce qu'il y a un problème de formation, il y a un problème de moyens que je dénonce déjà depuis des années. Il n'y a pas de fichier. Vous savez, regardez, quand il y a eu l'affaire Arthur Noyé, il y avait l'affaire Maëlys, on était à une soixantaine de kilomètres de cour d'appel. Il n'y a pas eu de croisements rapides qui ont fait qu'effectivement, on a pu se connecter sur la piste Lelandais tout de suite quand on cherchait pour Arthur Noyé sur Chambéry. On n'a pas connecté suffisamment
tout
vite avec l'affaire Maëlys qui se passait sur Grenoble. Et pourtant, on est à peine 60 kilomètres. Donc, à mon avis, non, c'est un problème de structure des enquêtes et de structure de la justice.
Oui, c'est vrai que là, il y a du retard à l'allumage. C'est clair, il va y avoir ensuite la fameuse cellule Ariane, mais bien plus tard. Pour l'instant, ça a été un peu compliqué de rassembler un petit peu tous ces cas. Serge Pueyo, en ligne également ce soir dans l'heure du crime. On verra évidemment dans cette affaire si le cas Lelandais émerge. Ce qui est sûr, c'est que vous connaissez bien le personnage, vous connaissez très bien ce dossier. C'est un homme de la nuit, on peut le dire comme ça, c'est un chasseur. Hein. Il y a plusieurs cas comme ça qui le concernent.
Oui, oui, Nordal Le Landais, on l'a dit, aime faire la fête. Il sort donc la nuit dans les discothèques. Mais on l'a vu dans l'affaire Arthur Noyer, il rôde aussi autour de ces boîtes de nuit. C'est un véritable prédateur. C'est à la sortie d'une discothèque de Chambéry qu'il a repéré le caporal Noyer, en train de faire du stop pour regagner sa caserne. C'est vrai qu'Arthur Noyer avait un peu bu, c'était une proie idéale. Dans le cas de Maëlys, c'est encore en pleine nuit, lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin, qu'il a embarqué la fillette dans son Audi A3. Donc c'est vrai que les faits concernant Nordal Le Landais se passent de nuit. Et vous l'avez dit, il peut être comparé à un chasseur.
Comparé à un chasseur, et on se souvient aussi les deux disparus du fort de Tamier, dont il y a toujours des points d'interrogation là-dessus, puisque là aussi il y avait la nuit, et puis des fêtes. Un petit mot, Serge, sur cette cellule Ariane, on en parlait très brièvement avec Maître Bernard Boulou. Aujourd'hui, les cas sont rapprochés. Ils travaillent beaucoup encore, les gendarmes, là-dessus ?
Alors, la cellule Ariane, elle est aujourd'hui dissoute. Hein. Les gendarmes qui ont composé cette cellule ont longuement travaillé sur le parcours de vie de Nordal Le Landais. Ils ont sélectionné une quarantaine de dossiers potentiellement suspects. Ces dossiers ont été remis aux magistrats des juridictions concernées pour continuer éventuellement à enquêter sur ces affaires. Mais officiellement, à ce jour, aucun de ces dossiers ne met en cause directement Le Landais sur la foi d'éléments matériels ou de témoignages qui pourraient être déterminants.
Francis Rochecolbe, le papa de Thomas, encore un petit mot. C'est important que votre fils figure dans ces cas, dans ces cold cases, je veux dire. Il y a une attention qui est portée.
C'est important dès lors où il y a une attention sur le dossier de mon fils. Chose qui n'a pas été faite depuis le début. Il a été son dossier a été classé comme un simple accident de la vie. Voilà, un jeune qui a un peu trop bu, voilà, avec des éléments troublants, mais qui n'interpellent pas des professionnels quand même des enquêtes. Voilà, donc non, c'est à mon sens, oui, on est quand même sur quelque chose qui devrait interpeller.
L'enquête sur la mort de Thomas Rochecolbe est relancée. Le juge chargé de l'affaire va accéder à la demande de la famille, l'exhumation du corps de Thomas, exhumation qui va peut-être donner les clés de la mort du jeune homme. Le mardi 9 mars 2021, une équipe d'officiers de police judiciaire et de fossoyeurs procède à l'exhumation du cercueil de Thomas Rochecolbe dans le nouveau cimetière de Schiltigheim, en Alsace, là où il repose depuis son décès. C'est un juge de Chambéry qui a fait cette demande, donnant suite à la requête des parents du jeune homme et de leur avocat. « Je suis un peu groggy, c'est compliqué, on ouvre le cercueil de mon fils ». Mais on a la satisfaction de voir qu'enfin les choses bougent, confie alors Francis Rochecolbe, le père de la victime. Le but de cette exhumation, opération qui reste exceptionnelle dans le cadre d'une instruction, est évidemment de réaliser une autopsie complète. Un examen qui peut permettre de savoir notamment si Thomas a été victime de fractures, celles qui auraient pu être causées par sa chute du haut de la falaise de 13 mètres, mais celles aussi qui aurait pu être causé par des coups portés par une personne qui aurait coursé Thomas cette nuit-là dans le but de l'agresser. C'est exactement la thèse que soutient depuis le tout début le père de la victime. Selon les conclusions de l'autopsie, Nordal Le Landais pourrait être entendu par les enquêteurs. Dans toutes les affaires où il a été interrogé, l'ancien maître chien est resté systématiquement sur la réserve. Il ne reconnaît pas les faits et n'avoue que lorsqu'il est placé devant le fait accompli. Il avait ainsi mis 6 mois à avouer le meurtre de la petite Maëlys. Dans le cas du caporal Arthur Noyer, les enquêteurs s'étaient heurtés aux mêmes difficultés. Le Landais avait tout d'abord reconnu qu'il avait pris en stop le militaire, indiquant aussitôt qu'il l'avait déposé un peu plus loin. Il avait été finalement confondu par des éléments de vidéosurveillance, des images de son véhicule Audi dans le secteur où se trouvait Arthur Noyer et surtout l'étude de la téléphonie. Si un rapprochement est établi un jour entre Nordal Le Landais et Thomas Rochecolbe, il est à parier que le meurtrier présumé de Maëlys et du caporal Noyer ne facilitera pas une nouvelle fois la tâche des enquêteurs. Francis Rochecolbe, le père de Thomas, et ce soir vous êtes l'un de nos invités dans l'heure du crime. Je citais vos propos après l'exhumation de votre fils. Alors évidemment, c'est un moment particulièrement douloureux pour vous. Est-ce que cette exhumation était totalement nécessaire ?
Malheureusement, oui. malheureusement, on n'avait pas le choix de prendre des, de demander au juge d'instruction cette requête, tout simplement parce que dès le départ, les gendarmes ont considéré qu'il n'y avait pas à faire d'enquête ou une toute simple enquête de voisinage, parce qu'il y avait ils ont tout de suite conclu à un accident.
Oui, ça, ils ont effectivement fermé la porte très vite sur la piste criminelle. Vous avez espoir sans doute de retrouver des indices qui vont peut-être amener à une autre explication sur la mort de votre fils avec cette exhumation.
Absolument. Je ne sais pas. Vous savez, c'est compliqué de dire je souhaite que le corps de Thomas révèle des séquelles
Je vous comprends.
Parce que quelque part, vous êtes dans une démarche où vous allez vous dire mon fils a subi des atrocités avant de mourir. Et d'un autre côté, vous êtes dans une démarche de s'il ne s'est rien passé, mon fils, il est parti en état d'ébriété, il a fait des choses que jamais. Il aurait fait, et puis en fin de compte, il les a quand même fait. Vous voyez, c'est. Mais dans les deux cas, c'est compliqué.
Bien sûr, mais monsieur.
Je repousse pas du tout la thèse de l'accident. Je dis simplement que dès le départ, il aurait été bien de faire une enquête sérieuse et approfondie.
Et on est complètement d'accord. D'ailleurs, il fallait une enquête sans doute plus approfondie. Et sans doute, la vérité est à ce prix. L'exhumation, la vérité est à ce prix. Maître Bernard Boulou, avocat de la famille Roche-Kolb, est-ce qu'on sait où en sont ces examens sur l'autopsie aujourd'hui ?
Alors, personnellement, je n'en sais rien. D'expérience, je sais que le médecin légiste donc a procédé à l'examen invasif du corps, ça c'était évident, donc à l'autopsie intérieure du corps. Et il est évident aussi que les anthropologues peuvent être saisis, il est évident que les radiologues seront aussi saisis, c'est-à-dire qu'on va passer le score au scanner, on va faire des IRM, on va rechercher toutes les fractures qui sont liées à la chute, si chute il y a eu, et les fractures qui sont liées peut-être à une agression. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette autopsie aurait dû avoir lieu, parce que je sais, moi, de l'enquête, que les gendarmes avaient quand même conclu qu'il n'avait pas été possible de déterminer si le corps était tombé directement dans la rivière, sur l'île de la rivière, ou si Thomas s'était promené, était parti d'un point, par exemple d'un pont, et avait longé la rivière pour arriver jusque-là. À l'entrée, il y avait déjà un doute, et c'est sur ce doute-là que l'autopsie aurait dû avoir lieu. On a quand même trouvé son crâne était abîmé. Sur le haut du crâne, il était abîmé, son crâne, alors que le corps était reposé, on va dire, quasiment face contre le sol.
Oui, c'est ça.
Donc il y avait des indices qui permettaient déjà de dire la cause de la mort est indéterminée, donc il fallait une autopsie. Et c'est là où je dis que la justice, elle est quand même responsable de la douleur que est en train de vivre la famille pour la recherche de la vérité. Et c'est une exhumation qui est nécessaire. On peut pas tourner autour du pot. Peut-être que les enquêteurs auront eu raison si les légistes nous disent effectivement c'est un accident. Mais tant qu'on n'a pas pratiqué cette autopsie, on ne peut pas le dire. Donc on verra à l'issue de cette autopsie. Ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois.
Oui, c'est toujours très long, maître, ce genre de travail, si je puis dire.
Enfin, quand la justice veut faire vite, elle peut.
C'est vrai, mais il faut encore y mettre les moyens, c'est un peu toujours pareil. En tout cas, c'est extrêmement important ce que vous venez de nous dire, parce que vous dites que finalement, il y avait des doutes au début de cette affaire. Il y a cette fracture du crâne qui est étrange, elle a peut-être pu être causée par une personne extérieure. Tous ces éléments sont vraiment capitaux dans cette enquête qui se dessine, et effectivement, les résultats de l'autopsie seront très importants. Pourtant, Serge Pueyo, je disais dans le récit, je l'évoquais, que Nordal Lelandais ne lâche rien auprès des enquêteurs. C'est vrai, c'est sûrement un prédateur, mais en tout cas, c'est difficile vraiment d'obtenir quoi que ce soit de sa part.
Oui, oui, on l'a vu dans les affaires Maëlys et du caporal Noyé. Le Landais ne parle que lorsque les enquêteurs lui présentent des éléments matériels ou des indices accablants. Hein. Une goutte de sang de Maëlys dans le coffre de son Audi A3, dans l'affaire de la fillette tuée donc à Pont-de-Beauvoisin. Le bornage téléphonique qui montre que les portables d'Arthur Noyé et de Le Landais se déplaçaient en même temps dans le même véhicule la nuit où le caporal a disparu. Voilà, dans l'affaire des petites cousines aussi de Le Landais agressées sexuellement, il y avait des vidéos accablantes dans son portable, donc il n'a pu que reconnaître les faits. Le Landais ne se met à table que lorsqu'il y a des éléments incontestables.
Nordal Le Landais, un homme qui détient sans doute bien des secrets, mais ne les distille pas. Dans 2 mois, il va apparaître pour la première fois devant une cour d'assises pour le meurtre du caporal Noyé. Du 3 au 14 mai 2021, Nordal Le Landais est attendu devant la cour d'assises de Chambéry, accusé de la mort du capitaine Arthur Noyé en avril 2017. Première sortie judiciaire publique pour l'ancien maître chien, audiences qui vont bien sûr permettre d'éclairer la personnalité de Le Landais présenté comme un prédateur et de révéler plus précisément un mode criminel opératoire qu'il aurait pu reproduire à plusieurs reprises selon les enquêteurs. Procès qui devrait ainsi servir de miroir à l'enquête sur la mort de Thomas Rochekolb, mort comme le capitaine Noyé après avoir passé la soirée dans une boîte de nuit de Savoie. Il est toutefois improbable que Le Landais évoque d'autres affaires à l'audience, même s'il pourrait y être poussé par l'avocat général et la partie civile. Quoi qu'il en soit, le premier procès de Nordal Le Landais n'interférera pas sur le cours de l'enquête de Thomas Rochekolb. Au-delà de l'autopsie, ces investigations pourraient être prolongées par des recherches ADN dans l'hypothèse où des objets ou des vêtements appartenant à la victime auraient pu être conservés jusqu'à ce jour. Maigre espoir cependant de ce côté-là. L'enquête avait à l'époque formellement conclu à un accident et aucun relevé d'empreintes ou de traces ADN n'aurait hélas été versé au dossier. Francis Rochekolb, le père de Thomas, question un petit peu curieuse peut-être, mais vous avez l'intention d'aller assister au procès de Nordal Le Landais ?
Non, c'est déjà, c'est pas mon... Il ne s'agit pas de mon fils, ne serait-ce que par respect pour les familles. C'est pas une séance de voyeurisme. Je pense qu'il faut respecter déjà avant tout les parents avant de vouloir voir quoi que ce soit ou d'espérer quoi que ce soit de ce procès. S'il doit sortir des choses, il en sortira, mais c'est pas en allant voir, ça m'apportera rien.
Oui, tout à fait.
Et ça n'apportera rien à qui que ce soit.
Et qu'est-ce qui manque selon vous, Francis Rochekolb, dans cette affaire, des traces ADN, etc. Il y a de l'espoir de ce côté-là ou c'est compliqué?
En fait, la trace ADN, moi j'avais demandé, après avoir pris connaissance de l'implication de Le Landais, suite au décès du caporal Noyé, j'avais demandé et j'avais téléphoné à la gendarmerie d'Aix-les-Bains, qui s'était chargé de l'enquête, de faire une analyse ADN par rapport à la présence d'un chien, par rapport à la présence humaine.
Bien sûr.
Parce que cette ceinture Thomas, dans l'hypothèse où il a sauté cette première barrière en bois, il a couru à travers, il a sauté ce grillage, voyant un chien le courser, entraîné de surcroît, passer de la première palissade, il s'est dit, là je vais faire volte-face, je vais retirer ma ceinture et je vais empêcher ce chien qui veut me mordre, je vais l'empêcher de passer avec cette ceinture. Et en agitant sa ceinture, est-ce qu'il a touché ce chien
ou une personne? Ou une personne.
Mais moi, j'avais demandé une personne, absolument. Mais si vous voulez, moi, initialement, pour me permettre d'avancer dans cette épreuve, il me fallait une histoire simple où l'humain ne rentrait pas en ligne de compte. Une histoire simple où un chien errant était là et puis il a croisé le chemin de Thomas. Ensuite, ça n'est que 2 ans ou 3 ans plus tard que j'ai découvert la présence de Nordal Lelandais.
Maître Bernard Boulou, vous êtes l'avocat de la famille Rochecolb. Vous êtes aussi l'avocat de la famille Noyer. Vous serez évidemment présent à ce procès de Nordal Lelandais. Pas question, évidemment, de vous demander ce soir ce que vous allez dire à ce procès. Vous le gardez pour vous et pour la Cour. En quoi, toutefois, en mots quand même, il va être important de voir pour vous Nordal Lelandais? Est-ce que c'est par exemple dans la fabrication de ces scénarios criminels qui peut vous intéresser pour ensuite rebondir sur le cas Rochecolb ?
Alors vous savez, Lelandais, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà rencontré parce que j'ai obtenu l'autorisation de la Chambre de l'instruction de Chambéry de participer aux interrogatoires de Nordal Lelandais. Donc de Lelandais, je n'en attends rien, nous n'en attendons rien. On sait très bien qu'il ne voudra qu'une chose lors de ce procès. Je vais être dur, mais et puis c'est le jeu aussi hein, de son côté. Il va vouloir sauver sa peau.
C'est ça.
C'est tout. Pour le reste, nous n'attendons rien parce que lorsqu'on on disait qu'il était sur la voie de la rédemption, j'ai entendu ça dans le cas du procès notamment, du procès de l'affaire Maëlys. Il n'est pas sur la voie de la rédemption, ou alors qu'il me fasse mentir, je préférerais. Mais je connais trop l'individu pour avoir été en interrogatoire de longues heures avec lui, pour savoir qu'il ne nous apportera rien d'autre que des mensonges et des silences. Et ce qu'il voudra, c'est effectivement prendre le moins possible en peine. Mais ça, c'est le jeu.
Tout à fait. Et c'est le jeu plus particulièrement encore aux assises, où encore une fois, tout peut se passer. Il ne faut pas préjuger d'un procès de la sorte.
Bien sûr, tout peut se passer. Nous aurons deux semaines, voire peut-être 3 semaines de débat. Un détail peut des fois faire flancher l'accusé. On verra. Ouais. Et puis, si véritablement il est sur la voie de la rédemption, eh bien, qu'il nous le prouve.
Exactement.
On verra.
Tout à fait. Serge Pueyo, Lelandais va donc être jugé. En quelques mots, qu'est-ce qui devient aujourd'hui ?
Il est toujours dans sa prison de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère. Il est extrêmement surveillé pour empêcher tout geste fatal de sa part à l'approche de son premier procès. On sait en effet que la pression d'une comparution judiciaire devant les familles des victimes, devant la presse, peut amener parfois des accusés à vouloir en finir en se suicidant avant l'audience. Oui. C'est ce que les autorités veulent éviter, bien sûr, à tout prix.
Bien sûr, et c'est ce que les autorités craignent de toute manière quand on a ce genre d'accusés dans les mains et qui s'apprête à être traduit devant une cour d'assises. Francis Rochecolb, je voudrais vous donner le dernier mot ce soir dans cette émission. Peut-être c'est le moment de lancer pour vous un appel à témoins, parce qu'il n'y a pas de témoin direct évidemment de la mort de votre fils, en tout cas de cette soirée. C'est peut-être le moment, effectivement. Il y a peut-être des gens qui ont vu quelque chose ce soir-là et qui veulent se manifester, qu'ils n'hésitent pas.
Alors c'est ce que je me dis depuis 5 ans, s'il pouvait y avoir quelqu'un qui aurait pu croiser Thomas le long de la route, en train de marcher, en train de fuir, je ne sais pas. Si cette personne ou ces personnes pouvaient se manifester, ou alors présentes ce soir-là dans la discothèque, en ayant vu des choses bizarres, étranges, en comportement ou pourquoi pas la présence de Lelandais ce soir-là dans cette discothèque.
Bien sûr.
Parce que il n'y a rien qui affirme le contraire.
Tout est possible, évidemment. Et un appel à témoins que nous relayerons dans l'heure du crime. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. Évidemment, nous en ferons part à l'avocat de la famille Rochecolb. Merci beaucoup Francis Rochecolb, Serge Pueyo et puis maître Bernard Boulou d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Thomas Rochecolb, un accident qui ressemble vraiment beaucoup trop à un meurtre. Espérons que la vérité surgisse dans ce dossier, ne serait-ce que pour apaiser ses proches. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime.